おかしいおかしい。
Dialogue entre Congolais avec Alain Jones à la présentation.
Bonsoir. Clôture samedi dernier à Kinshasa de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Que retenir de ce sommet et quel bilan dresser de la présidence de la RDC à la tête de la CEAC? Quel défi la CEAC doit-elle relever pour les années à venir? Trois invités vont enrichir cet échange. Il s'agit de Germain Kambinga, international chargé de la communication au MLC, parti de l'opposition et assistant à la faculté d'économie à l'université de Kinshasa. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Germain.
Bonsoir.
Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il est en ligne. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Nkoy Baoumbou, secrétaire général à la coopération régionale, également avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur le secrétaire général.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Clôture samedi dernier à Kinshasa de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la tête de l'organisation depuis 2007, Joseph Kabila, président sortant de la CEAC et chef d'État de la RDC, a dressé un bilan de son mandat à la tête de cette organisation sous-régionale. Joseph Kabila a rappelé les grandes lignes de ce mandat axé sur la paix, la sécurité et la stabilité auxquelles s'ajoute la réalisation des infrastructures dans le secteur de l'eau, des transports et de l'énergie. L'essentiel du bilan de Joseph Kabila, président sortant de la CEAC, avec vous, Kelly Côté.
Parlant de l'intégration régionale, Joseph Kabila a souligné que plusieurs réunions des responsables de la défense et de la sécurité en Afrique centrale se sont tenues à Kinshasa, à Brazzaville, à Libreville, à Yaoundé, à Luanda et à Malabo. Dans le même registre, il a été signé à Cotonou le 8 mai 2008 un accord multilatéral de coopération régionale dans la lutte contre la traite des personnes touchant particulièrement les femmes et les enfants. Le président de la République a aussi évoqué la situation sécuritaire qui a prévalu au Tchad. La CERC a assisté le gouvernement tchadien à régler la crise. Au chapitre de l'intégration économique, il convient de noter que les ministres des Finances et Budget de la CEAC ont adopté le budget général de la communauté pour l'exercice 2008. S'agissant de la zone de libre-échange, Joseph Kabila a tenu à informer qu'une séance d'information et de sensibilisation a été organisée par le secrétariat général de la CEAC en faveur des administrations et des opérateurs économiques sur les outils et mécanismes d'intégration sous-régionale. En outre, les études ont été menées sur la promotion du commerce interrégional et les négociations sur les services extérieurs communs ont été ouvertes. Il a aussi souligné que l'intégration passe aussi par les infrastructures de transport et de communication. Dans le domaine de l'eau et de l'énergie, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre du cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau. Et pour ce qui est de l'énergie, les études des faisabilités d'interconnexion et des préservations d'énergie sont en cours. Joseph Kabila a souligné que son mandat est resté conforme aux objectifs que doit atteindre la CEAC, mais que les moyens financiers n'ont pas suivi pour permettre la mise en œuvre de certaines décisions capitales.
Voilà, merci Kéline Kouté. Nkoy Baoumbou, vous êtes secrétaire général à la coopération régionale. Pour ce premier tour de table, comment, brièvement, avez-vous accueilli l'organisation de ce 14e sommet?
Merci beaucoup. L'organisation, on peut dire que ça a été un succès, dans ce sens que la participation a été totale. Les délégués de tous les États membres ont répondu à l'invitation du président en exercice.
Même si on a noté l'absence de certains chefs d'État.
Oui, les chefs d'État, chacun a son calendrier, mais il y en a, tous ont été représentés au plus haut niveau. Il y en a qui étaient représentés au niveau du vice-président, d'autres par les chefs de gouvernement et par les ministres des Affaires étrangères sont de grandes personnalités.
Voilà, donc nous retenons pour ce premier tour de table que c'est un succès pour vous, Germain Kambinga. Vous êtes secrétaire national chargé de la communication à MLC, parti de l'opposition, et assistant à la faculté d'économie à l'université de Kinshasa. Comment vous avez accueilli ce sommet?
Écoutez, pour moi, je crois qu'on doit pouvoir dépasser les questions de protocole pour savoir qui était là et qui n'était pas là. Ce sont des messes auxquelles nous sommes tout à fait habitués. Ce qui est plus intéressant, essayer d'analyser, aller en profondeur et savoir la CEAC, elle sert à quoi et concrètement les populations de l'Afrique centrale, que peuvent-elles attendre d'une telle institution? Sommes-nous en phase avec les objectifs fixés par les pères fondateurs de cette organisation lorsque dans les années 80, elle a été créée avec le tout premier secrétaire général, le professeur Lunda Bululu? J'aimerais savoir simplement, après 25 ans, où est-ce que nous en sommes? Alors que si nous regardons de très près, nous avons effectivement l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes encore très loin d'atteindre les objectifs assignés par les pères fondateurs de cette institution. Je pense à Omar Bongo, à Mobutu Sese Seko. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. La messe, elle était belle, elle était dite avec maestria, mais ça n'intéresse pas beaucoup les populations. C'est des questions de protocole.
Voilà, nous allons aborder ces questions auxquelles vous faites allusion tout à l'heure. Professeur Moïla Tiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Toujours pour ce premier tour de table, votre avis au sujet de ce sommet?
On peut dire que le sommet a posé la question préalable de la capacité. Vous savez, tout le monde s'est demandé si la République démocratique du Congo, pays post-conflit, éventré par les guerres et rendu pratiquement à l'impuissance, est-ce que le Congo était capable d'organiser un sommet? Vu l'Europe, ou d'ailleurs, c'était la question primordiale. Donc, le fait que le sommet se soit tenu à Kinshasa dans des conditions normales, c'est à entendre les dirigeants qui ont participé au communiqué final, ça, au moins, c'est une victoire au sens que, on se doutait fort que ce pays ait encore la capacité, vous savez, à l'époque du Mobutu, Kinshasa était le lieu de faisabilité des conférences internationales. Et je sais combien ces conférences étaient faites avec Maestria. Donc, depuis la guerre, depuis que la République démocratique du Congo est devenue le ventre mou de l'Afrique centrale et qui avait perdu totalement la main sur les organisations régionales, on se demandait bien si ce pays existe encore et s'il a la capacité. Or, le fait même que le sommet se soit tenu, c'est déjà quelque chose qui mérite félicitations, même si, bien entendu, comme notre ami vient de l'indiquer tout à l'heure, on est encore très très loin des objectifs assignés à l'organisation. Et bien entendu, ceci ne relève pas de la présidence tournante. Dois-je préciser en termes de qu'est-ce qu'on peut attendre d'un président qui assure un mandat président d'exercice? C'est une fonction honorifique qui est limitée essentiellement à des bons offices, à certains gestes, comme ça vient d'être indiqué, des régions de Cotonou, la Sève du Tchad, etc. Mais globalement, on ne peut pas substantiellement changer le destin d'une organisation pendant une période d'un an d'exercice, de mandat par un président d'exercice, quels que soient son talent et quels que soient les moyens.
Merci professeur, j'ai vu Germain Camding n'a pas très d'accord avec vous sur certaines questions, on va lui donner l'occasion de rebondir tout à l'heure. Monsieur le secrétaire général Nkoy Baoumbou, quel bilan peut-on dresser de la présidence de la RDC à la tête de la CAC?
Merci beaucoup.
Concrètement,
le bilan, comme je l'ai dit à l'entrée, le bilan est largement positif dans la mesure où la plupart des pays membres, ce sont des pays qui autrefois ont connu des guerres entre eux, et le fait que le président Kabila, pendant son mandat, il a réussi à réunir la plupart des leaders de ce pays, il y a eu des sommets extraordinaires. Vous l'avez entendu, ici à Kinshasa, par exemple, sur le Tchad, les présidents se sont réunis. Il y a eu des réunions au niveau des experts, il y a eu des réunions au niveau ministériel, il y a eu des réunions des ministres de défense et de sécurité des États membres qui se sont penchés chaque fois qu'il y avait un problème. Et c'est ça, l'objectif primordial, c'était colmater les brèches, puisque l'Afrique centrale a connu des guerres pendant ces dernières années. Et c'était que normal pour que les leaders se côtoient et se parlent entre eux.
Là, vous faites allusion à ce que le président de la République a appelé l'aspect intégration humaine dans son discours. Germain Camding, je vous vois sourire.
Non, mais parce que je constate effectivement qu'il n'y a rien à dire sur la CEAC, il n'y a rien à dire sur ce sommet. Nous tournons autour des considérations assez protocolaires et assez superficielles.
Donc, ils n'ont rien à voir avec...
Et négatif. Écoutez, le bilan de la CEAC est globalement négatif. La CEAC a été ressuscitée il y a quelques années. Elle a failli mourir de sa belle mort dans les années 90, faute d'intérêt de la part des dirigeants africains qui ne cotisaient plus. On essaye de remettre les choses en chantier, mais nous sommes encore très loin. Il faut d'abord qu'on se comprenne. On s'intègre pourquoi ? On s'intègre pour deux raisons fondamentales. Le pouvoir de négociation, la recherche d'économies d'échelle, et le tout, en fait, pour servir de... C'est créer un tremplin pour la mondialisation. Nous sommes à l'ère des grands ensembles. Qu'avons-nous fait pour réaliser une véritable intégration ? Est-ce que nous pouvons juger de la dimension positive d'une institution par le fait qu'il y ait eu, pendant un sommet, un certain nombre de chefs d'État qui se soient déplacés ? Non, c'est leur travail. Ils ont créé une institution, ils ont vocation à être là. Mais qu'est-ce qui se passe après le sommet ? Par ailleurs, sous un autre chapitre, pour répondre un petit peu au professeur Moïla Tshiembé, qui s'extasiait de voir que la République démocratique du Congo avait pu organiser un tel sommet. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a à peine, il n'y a même pas un mois, nous organisions déjà un sommet d'une importance sinon plus grande, celle de la SADC, et qu'il y a à peine deux ans ou une année et demie, si je ne me trompe, nous recevions les mêmes chefs d'État dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Donc ça veut dire que, grosso modo, ces questions-là qui sont soulevées dans ce débat sont des questions superficielles. Nous, ce que nous aimerions savoir, nous, populations de l'Afrique centrale, c'est est-ce que nous sommes au cœur d'une structure de coopération, parce que tout ce dont on parle sont des aspects de coopération, ou est-ce qu'effectivement nous sommes dans une structure d'intégration, et auquel cas, quels sont les critères de convergence qui ont été établis au départ, et à quel niveau chacun des États partis se retrouve impliqué. Par ailleurs, en parlant du mandat du président de la République, c'est vrai, le professeur l'a rappelé, c'est une présidence tournante, donc on le devient à escalité, il n'y a pas un mérite particulier. Il suffit d'être chef d'État de l'Afrique centrale et à un moment donné, la balle est à vous. J'aurais été satisfait de voir le président de la République impulser une dynamique beaucoup plus forte pour relancer la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je prends deux aspects qui me tiennent à cœur en tant que Congolais d'abord. J'aurais voulu voir le président de la République profiter de son mandat pour redonner à la République démocratique du Congo, au terme du mandat de l'actuel secrétaire général, le secrétariat général. Parce que dans les accords de départ, le secrétariat général revenait de facto à la République démocratique du Congo, qui devait être le poumon de cette nouvelle institution. N'oubliez pas que notre présence, d'un point de vue purement géopolitique, nous avons plus intérêt à nous impliquer dans le fonctionnement de la CEAC que dans celui de la SADC. Au niveau de la SADC, que ce soit du point de vue démographique ou du point de vue économique, nous avons très peu de chances d'être les premiers à court terme. Alors qu'au niveau de la CEAC, que ce qu'il s'agisse des questions économiques ou des questions démographiques, nous sommes le poumon naturel de cette institution et comme je vous l'ai signifié au départ, il y a une considération fondamentale qui est celle du pouvoir de négociation, considération inhérente à toute structure d'intégration. Donc, à partir de là, je vois que vous voulez me prendre la parole.
Allez-y, résumez-vous, je vous en prie.
Donc, en résumé, nous sommes très loin des objectifs assignés. Arrêtons de parler de ces questions superficielles et reconnaissons que le chemin à faire est encore très 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 long. La CEAC ne peut pas être qu'une structure de coopération, une espèce de syndicat de chefs d'État qui se soutiennent lorsqu'il y a des rébellions ou lorsqu'il y a des tentatives de déstabilisation. C'est beaucoup plus que ça et c'est à ce rendez-vous-là que nous espérons voir l'ensemble des chefs d'État et des pays de l'Afrique centrale se retrouver.
Monsieur le secrétaire général, la CEAC ne doit pas être qu'un syndicat de chefs d'État. Avant de redonner la parole au professeur Moïla.
Non, je ne pense pas, puisque si les chefs de l'État, ne s'attendent pas, les populations non plus ne vont pas s'attendre. Et je pense que un des objectifs de la CEAC, c'est la promotion des contacts entre les leaders des différents pays. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque si les présidents ne se parlent pas, c'est comme dans une famille. Écoutez, il ne faut pas qu'on m'interrompe.
Allez-y, vous avez la parole.
Dans une famille, si les voisins, vous êtes dans un quartier, sur une avenue, si les parents ne s'entendent pas, les enfants sont mal à l'aise. et ce sont, qu'on le veuille ou pas, ce sont ces chefs de l'État qui conduisent la politique de nos États. Ils ont tout intérêt à s'entendre pour le bien-être de leur population, puisque quand ils parlent au nom de leur population. Mais moi, je ne vois pas d'inconvénient quand les chefs de l'État, il y a de l'harmonie, il y a une bonne ambiance entre eux.
Mais, monsieur le secrétaire général, à entendre le résumé qu'a fait notre collègue Kelly du bilan du président Joseph Kabila, par exemple, apparemment, il n'y a rien de concret. Hein. C'est juste des réunions ministérielles, ça va des réunions des secrétaires généraux, mais... Sur le plan des populations, comme a dit Germain Kambi, en plus, il y a cet auditeur, Kassamba de Bouya en province orientale, qui dit « Le bilan est mitigé car le mauvais climat dans les relations avec l'Angola n'a pas facilité la tâche à la RDC. Quant à l'avenir avec la position ambiguë de ce pays, encore l'Angola, on ne peut espérer une grande évolution. »
Oui, ça c'est un aspect purement politique, mais parlons de développement. Les prénoms sur le plan, puisque mon voisin, Germain, il a parlé de critères d'intégration. Mais si sur le plan humain, si on doit parler de la gestion de crise et ou prévention des conflits dans l'espace CAC, ce sont des critères d'intégration. Puisque s'il n'y a pas, s'il y a des crises entre dans un État ou entre États, on ne peut pas parler de l'intégration. Et les chefs de l'État, les ministres ayant la défense et sécurité dans leurs attributions, ils ont tout intérêt à se réunir pour parler des problèmes de crise, de la prévention des conflits. Ça, c'est très normal. Ce sont des priorités.
Voilà, je reviens encore, je suis encore avec vous. Au sujet de l'intégration économique, la CAC a du mal à fonctionner parce que les États ne cotisent pas. Et le président l'a même dit dans son discours, beaucoup de projets n'ont pas pu être réalisés faute de cotisation.
Ah oui, ça c'est une évidence, c'est une évidence. Vous connaissez la situation de la plupart de nos États. Ils ont du mal à faire fonctionner le véhicule quotidien de leur gouvernement. Et ce n'est que normal. Et le président en exercice a sensibilisé. Mais une chose, c'est une information peut-être que les gens n'en ont pas. Nous ne sommes pas parmi les gens qui sont en retard de cotisation. Nous sommes en règle dans nos cotisations et c'était aussi une note de satisfaction pour le mandat du président Kabila en tant que président en exercice de la CAC. Il a passé le flambeau à son homologue tchadien avec un actif sur le plan de cotisation pour son pays.
Professeur Moïlaïa Kachindi Kambi Emmanuel de Québec au Canada qui dit « Comment peut-on affirmer qu'il y a des avancées significatives au sujet de la paix et la sécurité alors que le président angolais a brillé par son absence lors de cette session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement? N'est-ce pas là une marque de tension entre ces deux pays, l'Angola et la RDC ?»
Oui, pour parler de choses qui fâchent, tout à l'heure Germain s'interrogeait s'il fallait s'extasier ou non sur le fait que Kinshasa ait fait preuve de capacité à organiser au moins deux ou trois sommets. Évidemment, j'ai jugé cette opportunité de cette affirmation. Mais la capacité, c'est pas seulement un fait de dire on tient une conférence, on invite les gens. C'est la preuve dans la matérialité de l'organisation, dans les objectifs assignés au texte, qui fait qu'un pays, un gouvernement, se mobilise, donne ses moyens financiers, accueille les gens, les loge, organise de manière rationnelle les choses. Ce qui n'était pas évident il y a 4-5 ans, on ne parlait même pas de la République démocratique du Congo pour ce genre de choses. Bon, passons. En ce qui concerne la question pertinente qu'il a soulevée, c'est que est-ce que le président Kabila aurait dû profiter de la présidence à la tête de la CEAC pour soulever les questions de contingences qui opposent la République démocratique du Congo à l'Angola, notamment les questions sécuritaires de Kamba à l'ensemble de comment dirais-je, des tergiversations. On apprend un mois que tel village est occupé par les soldats angolais. Oui, il y a une négociation, ils sont partis. Le surlendemain, un mois après, on entend que tel ou tel autre village, dans tel ou tel autre coin du Congo, sur la frontière commune, il y a eu des expulsions des Congolais dans des conditions tout à fait inhumaines. Il y a la question de ressources pétrolières du Congo. Et on ne sait pas, on veut bien faire une communauté d'intérêt avec l'Angola, mais la question préalable, c'est les ressources pétrolières appartiennent à quel pays? Est-ce que ce sont des ressources congolaises ou bien des ressources angolaises? Cette question-là, c'est une question préalable de souveraineté. Mais si on veut mettre ces opérations ensemble, ces ressources, les gérer ensemble, les États souverains doivent convenir au meilleur des intérêts des deux parties, comment gérer ces questions. Donc, le fait que la présidence de la CAC n'ait pas permis au président Kabila de poser ces questions-là, peut-être qu'il les a-t-il posées en secret entre les chefs d'État, mais ça n'a pas été posé au sens public du terme devant les Congolais ou devant la communauté internationale, évidemment, on peut rester sous sa fin en se disant mais pourquoi cette question n'a pas été soulevée publiquement pour que on fasse le point, non pas pour montrer l'Angola du doigt, mais pour montrer que les États n'ont pas d'avis, ils n'ont que des intérêts.
Merci à
tous. Chacun doit être dans ses intérêts et voir comment on peut faire la communauté économique ensemble en sauvegardant les intérêts des uns et des autres, sinon il y a des équilibres et personne ne peut comprendre où l'on va dans une organisation régionale.
Merci, professeur. Monsieur le secrétaire général Nkoyiba Umbu, quelle réponse, par exemple, le président Kabila, dans son bilan, a apporté au problème de la crise financière et la crise alimentaire, concrètement, parce que ça touche directement aux populations, comme l'a dit Germain Kambinga.
La crise financière a fait l'objet d'un conseil des ministres il y a deux mois de la communauté. Il y a eu des ministres de finances, de l'économie, les gouverneurs des banques centrales et nationales.
Et quelles ont été les retombées?
Les retombées, c'est qu'ils ont trouvé, ils ont élaboré une matrice pour chercher des voies de sortie de la crise. Et parmi les recommandations, ils ont recommandé, ils ont insisté sur le renforcement du commerce entre les États de la région, puisque le commerce intra-régional est très, très, très faible. Je crois qu'il représente seulement 2%. Alors, pour juguler la crise économique, il faut renforcer les échanges au niveau de la sous-région. Et c'était ça la recommandation.
Il y a cet auditeur Malonga de Bandundouville qui dit « Ce sommet n'a de l'importance que pour les chefs d'État et non pour les peuples. Sinon, pourquoi les populations de ces pays de la CAC jusqu'à présent ne sont pas en mesure d'échanger librement ?»
Échanger librement
au niveau de la sous-région.
Oui, mais un des aspects de l'intégration humaine, c'est la libre circulation des personnes.
Et vous pensez qu'elle est effective aujourd'hui?
Bon, les gens y circulent malgré quelques difficultés. Mais le sommet a recommandé la mise en place, puisque le problème c'est que nous sortons des hostilités. Alors, les États, ils se suspectent entre eux. On ne peut pas permettre une libre circulation des personnes à outrance. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont été sélectionnées et déterminées pour qu'elles puissent circuler librement. On va créer des couloirs de libre circulation au niveau des aéroports, au niveau de beach, je crois, c'est il y aura des laissez-passer, des documents de circulation qui seront octroyés à cette catégorie de personnes. Mais on ne peut pas accepter à ce que tout le monde circule librement, sinon on ne saura pas maîtriser la situation.
Voilà, Germain Kambinga n'est pas toujours d'accord avec vous. Hein.
Ça, c'est son droit.
Voilà, en plus de cette réaction, Germain, il y a Adrien Ilobakoué de Kamanga qui dit le bilan est négatif du fait que la RDC avait hérité d'une situation normale, calme et stable, mais elle a laissé une situation désastreuse entre les pays membres.
Mais écoutez, il faut bien que nous sachions de quoi nous parlons. Nous parlons d'une institution régionale qui a vocation à créer de l'intégration. En même temps, on ne peut pas penser à de l'intégration si au niveau des plus hauts responsables, comme M. le secrétaire général, on considère encore que la libre circulation est plus une contrainte qu'une opportunité, alors qu'en réalité, nous avons bien vu qu'il n'y a pas possibilité d'intégration s'il n'y a pas cette question de la libre circulation. Ce sont même des étapes théoriques. Nous commençons par l'union douanière, qui suppose la libre circulation des marchandises, de l'union économique, etc., la libre circulation des personnes et des biens, ensuite nous arrivons à l'union monétaire, ainsi de suite. Ce sont des étapes élémentaires, sans lesquelles il n'y a pas possibilité d'intégration. Par ailleurs, je voudrais quand même que l'on se comprenne. L'intégration n'est pas une panacée. Les économistes disent, un pauvre plus un pauvre ne donne pas un riche. C'est bien pour ça que pour tout processus d'intégration réussi, nous établissons des critères de convergence. Au niveau de l'Union européenne, nous avons ce qu'on appelle les critères de Maastricht. Il y a des considérations à prendre en compte au niveau du taux de chômage, des questions de déficit budgétaire, de niveau d'inflation, ainsi de suite. Ce sont des critères qui permettent de faire un nivellement des structures économiques, des structures sociales, des structures humaines dans les pays, ce qui fait que lorsqu'on s'intègre, les effets de synergie sont évidents. Lorsque ces questions ne sont pas prises en compte et que nous parlons d'une structure d'intégration mais nous agissons comme s'il s'agissait d'une simple structure de coopération, alors nous sommes en total déphasage. Ensuite, il faut bien qu'on comprenne que parmi ces critères de convergence, au niveau de l'Afrique, un critère essentiel, c'est la démocratie. C'est la démocratisation de nos États. Et cette démocratisation, lorsqu'elle deviendra une réalité, lorsqu'il ne s'agira plus de considérer la démocratie comme du simple mimétisme institutionnel, nous sortirons de ces paradigmes passéistes qui voudraient que les hommes soient plus forts que les institutions, que nous faisions l'apologie de la force des hommes et de la faiblesse des institutions.
Et là, vous voulez faire allusion à quel État ?
Je fais allusion à la version du secrétaire général tout à l'heure, lorsqu'il considérait que les humeurs des chefs d'État ou les affinités des chefs d'État étaient des conditions sine qua non aux intégrations. Non, c'est comme ça en tout cas.
Pas sine qua non, c'est une des conditions, c'est un des facteurs de
l'intégration. Le secrétaire général, permettait à Jean-Louis Kambinga de terminer sa pensée.
En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons compris. Si ce n'était pas le cas, excusez-moi. Par ailleurs, revenons sur la question de l'organisation des conférences, etc., en République démocratique du Congo. Moi, pour moi, la République démocratique du Congo est un État, ce n'est pas une agence d'événementiel. Donc, je ne juge pas la crédibilité de mon État par rapport à sa capacité à organiser des événements. Je signe et je persiste. Le président de la République fait preuve de beaucoup de volonté. Il a effectivement impulsé une dynamique diplomatique qui a encouragé, mais cela étant, à partir du moment où ce qui est intéressant pour un bilan politique, pour un chef de l'État, ce sont les résultats, nous devons laisser ça de côté. Nous devons considérer que ce satisfecit est un satisfecit de base, mais qu'ensuite, les vrais débats commencent. Au niveau de la CEAC, j'attends du président de la République démocratique du Congo un travail de fond pour récupérer le secrétariat général. Ensuite, impulser une dynamique d'intégration, ne serait-ce qu'au niveau sous-régional. Le fameux pont entre la République démocratique du Congo et la République congolaise, Kinshasa-Brazza, ça aurait été à inscrire à son bilan. Par ailleurs, je voudrais vous signaler qu'il y a une organisation sous-régional, qui a à peu près, ou sinon les mêmes objectifs que notre organisation. Cette organisation, on l'appelle la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui a succédé à l'Union économique et douanière de l'Afrique centrale, l'UDEAC. Cette institution est composée de la plupart des pays qui font partie de la CEAC et elle est très avancé sur le plan d'intégration. Unicité monétaire, résultat de la zone franc CFA, vous me direz, unicité en termes de circulation des personnes et des biens.
Donc vous voulez dire que les chefs d'État donnent plus d'importance à la CEMAC qu'à la CEAC?
Je crois qu'effectivement, il y a des efforts à faire au niveau de la CEAC, parce qu'au niveau de la zone CEMAC, il y a des avancées, la libre circulation des personnes et des biens, c'est quasiment une réalité, parce que entre Brazzaville et Libreville, par exemple, il n'y a pas de visa, les gens circulent librement. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'en fait, nous sommes dans un imbroglio qui gagnerait à être éclairci.
Professeur Moïla Tiembe.
Oui, je pense qu'il faut, je voudrais dire à Germain qu'il faut faire la part des choses entre le bilan de la CAC, le diagnostic qu'il fait, et le bilan de la présidence tournante qu'a exercé le président Kabila. Parce que un an de mandat honorifique ne peut pas, quelle que soit la volonté de l'homme ou quels que soient les moyens disponibles, régler les problèmes de fond dont Germain est en train de parler. Donc, si on est parti sur le bilan, c'était sa présidence, qu'est-ce qu'il en a fait? On peut être pour, on peut être d'accord, c'est ça qui rend au moins le débat intéressant. Mais sur les questions de fond que Germain est en train de soulever, il y a la problématique de la capacité même de créer des richesses. La pauvreté ne se partage pas. Or, la quasi-totalité des pays d'Afrique centrale ne produisent quasiment pas grand-chose si ce n'est que les matières premières, le cuivre ou les minerais pour le Congo, en gros, un peu de des produits forestiers, etc. Mais tout ceci prend le schéma colonial de l'économie coloniale qu'on a appelé l'économie d'extraversion, le comptoir. Le Congo-Brazzaville avec son pétrole et ses forêts, c'est pratiquement la même chose. C'est la même chose pour le Gabon, pour le Cameroun, etc. Donc, il n'y a pas une création des richesses sur des industries nouvelles, sur des nouvelles technologies destinées à la consommation des populations de l'Afrique centrale qui donnent du travail dans un projet de développement, c'est-à-dire de création des richesses dans l'ensemble de la région, bien sûr, non pas seulement en regardant tourner le monde, mais en prenant en compte les réalités de ce pays et en essayant d'optimiser leurs capacités intrinsèques. Or, de cette problématique-là, il n'en a rien été jusqu'aujourd'hui. La République démocratique du Congo, comme l'ensemble des pays de la région, continue à produire ces matières premières et à les vendre comme au début du siècle, lorsque ce pays, l'État indépendant du Congo et ensuite la colonisation belge, continuait et ça continue comme ça a été il y a quelques années déjà. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée qui aurait créé les conditions véritablement d'une richesse nouvelle qui serait partagée par des pays de l'Afrique centrale et leur population pour pouvoir justement créer les conditions de développement durable sur les transports, sur l'école, sur les hôpitaux qui auraient eu une incidence sur l'hôpital, sur la santé, sur la formation, l'école, sur les conditions de déplacement des populations des biens et des services. Eh ben, tout ceci fait que, n'ayant pas entrepris les choses de la bonne manière, ce qu'on appelle l'intégration en Afrique est resté au calendre grec, comme d'ailleurs dans les termes, le jargon universitaire, on parle de regroupement régional, pour attester qu'il n'y a pas eu d'intégration au sens de l'Union européenne, au sens, par exemple, des institutions qui ont été créées en Amérique latine, le Mercosur, par exemple, etc., qui montre que lorsqu'il y a une volonté de faire les choses, les gens s'en donnent les moyens, on a une perspective pour le réaliser. Et c'est ça qui est le défaut, et sans que ce n'est pas nécessairement la faute de la présidence d'un an que M. le président Kabila a exercé. Tous les autres pays l'ont déjà exercé avant, même à l'époque de Mobutu ou d'autres personnes. Et ce constat-là, il ne dépend pas, bien sûr, on peut reprocher à ces ministres d'État un an de n'avoir pas entrepris, etc. Mais il y a un problème de fond qui est le problème de la stratégie. Quelle est la stratégie congolaise d'intégration régionale? Quelle est l'ambition du Congo et quels moyens le Congo met derrière cette ambition? Alors, à cette question-là, on n'a pas de réponse. C'est probablement là l'essentiel. Est-ce que le Congo a une ambition d'intégration régionale? Quelle est cette ambition? quels sont les moyens au service de cette ambition. Et tant qu'on n'a pas ces réponses-là, bon, le reste, c'est du folklore, évidemment.
Merci, professeur. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que Dialoguante Congolais se penche sur la clôture samedi dernier à Kinshasa de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Que retenir de ce sommet et quel bilan dresser de la présidence de la RDC à la tête de la CEAC? Quels défis la CEAC doit-elle relever pour les années à venir? Trois invités participent à cet échange. Il s'agit de Germain Kambinga, secrétaire national chargé de la communication au MLC, parti de l'opposition et assistant à la faculté d'économie à l'université de Kinshasa, professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, Nkoy Baumbu, secrétaire général à la coopération régionale. Si vous souhaitez réagir, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Et si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez réagir en nous écrivant à dec@radiocapi.net. Quel défi la CAC doit-elle relever pour les années à venir? L'intégration humaine, économique et monétaire des pays de la sous-région sont les objectifs que la CAC s'est assignés. La réussite de cette intégration passe par la stabilisation de la sous-région, la construction des infrastructures et la bonne gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Selon le nouveau président de la CAC, le Tchadien Idrissa Déby, pour réaliser ses objectifs, la CAC a besoin des moyens financiers. On écoute Idrissa Déby, président en exercice de la CAC. Ses propos ont été recueillis par Daniel Tambizori.
Pour préciser de manière rapide et durable notre intégration économique et sociale, les pays de la CAC doivent apporter une attention soutenue à la réalisation des projets intégrateurs qui passent nécessairement et entre autres par les infrastructures routières et les télécommunications. C'est dans ce cadre qu'il faudra doter la CAC des moyens nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. À cet effet, j'invite les pays de la CAC à libérer leurs contributions financières dans des délais compatibles afin d'accélérer la réalisation de nos objectifs.
Monsieur le secrétaire général, vous venez de suivre le président Idrissa Déby. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs pour la qualité de ce son. Que faut-il pour que la RDC, quelle impulsion la RDC doit-elle donner, comme a dit le professeur Moïla, pour que la CAC ne reste pas qu'un chapelet, un vœu pieux, un chapelet de bonnes intentions?
Merci beaucoup. J'aimerais un peu apporter une précision, puisque on passe maintenant au second point de notre émission. Monsieur Germain est allé un peu beaucoup plus vite en besogne en parlant des perspectives. Or, les perspectives, si je comprends bien le programme, c'est maintenant. Voilà. Le président Kabila a été président en exercice de la CAC. Et l'émission, c'était le bilan de son mandat. Et quand on parle de bilan, on ne parle pas des problèmes intrinsèques internes à chaque État. Non, on parle du bilan global de ce qu'il a pu réaliser comme travail, conformément aux objectifs.
Voilà, cette objection, cette observation à portée, est-ce que vous pouvez répondre directement à la question par rapport à l'impulsion que la RDC doit donner en interne?
L'intégration, on ne peut pas avoir parlé de l'intégration s'il n'y a pas d'infrastructure physique qui favorise le mouvement, la circulation de personnes et de biens.
Mais ces infrastructures viendront avec quels moyens?
Les infrastructures sont déjà programmées, puisqu'il a parlé du pont route rail Kinshasa-Brazzaville, avec le prolongement de la route et du chemin de fer jusqu'à Yulebo. C'est inscrit dans le programme. Et maintenant, ce qui va être fait dans un avenir proche, ce sont des études. Des études, on a commandé des études de faisabilité pour déterminer l'impact de ce pont sur l'économie de la province de Bas-Congo. Puisque vous avez tous suivi ce que ce pont avait provoqué comme tollé, et le président a inscrit l'étude sur l'impact de ce pont sur la province du Bas-Congo et ça va être réalisé
voilà,
dans un bref avenir. Là aussi, il y a aussi le pont. Non, j'ai encore deux minutes. Pont sur la rivière Oubangui qui va relier la ville de Bangui et avec la ville de Zongo dans la province de l'Équateur. C'est un pont qui sera très important pour le flux commercial dans cette partie.
Voilà, ça c'est très bien. Mais si on revenait en interne, le professeur Moïla a posé une question fondamentale. Quelle est la vision de la RDC par rapport à l'intégration, à la coopération régionale?
Mais c'est ça justement, parce que ne voyons pas l'intégration régionale sur le plan interne de interconnexion des provinces de la RDC.
Mais qui doit partir d'une impulsion interne.
Mais non, l'impulsion interne, c'est par rapport à la région. Parce qu'il ne faut pas comprendre les choses. Le président Kabila, en tant que président de la RDC, a son programme interne, comme il est en train de faire les réhabilitations des routes reliant une province à une autre, une région à une autre. Mais l'intégration, c'est par rapport à la sous-région de l'Afrique centrale. Il ne faut pas confondre les choses.
Voilà, oui. Germain Kambinga, oui. Il y a l'abbé Alain Lomandja de l'Odja au Cassé Oriental qui dit « Le premier défi de la CAC me semble celui de la bonne gouvernance politique et économique, notamment dans la gestion des ressources naturelles qui sont devenues la cause des conflits récurrents de la sous-région. Ce défi peut garantir la paix et réduire les injustices sociales. Les ressources naturelles servent encore presque exclusivement aux chefs et aux multinationales. »
Et j'attends toujours la question.
Alors, vous réagissez à sa réaction. Hein. C'est une réaction d'un auditeur qui propose, qui dit que lui, pour lui, les défis, ça passe par la bonne gouvernance.
Mais écoutez, mais nous en revenons au problème des critères de convergence qui sont à la base des intégrations réussies. On ne peut pas intégrer ce qui est désintégré à l'intérieur. Donc, l'intégration nationale est essentielle pour la réussite de l'intégration régionale ou internationale. Donc, dans un pays qui ressemble à un gruyère, espace éclaté, avec des institutions déliquescentes, réalité quasiment partagée par la plupart des pays africains, parce que la démocratie est à peine en train de faire ses premiers pas. Dans ce type de pays, disais-je donc, il n'est pas évident d'imaginer à court terme des intégrations réussies. Mais cela dit, cela ne nous empêche pas d'imaginer l'avenir autrement. Nous ne pouvons pas nous permettre des économies d'initiative. Voilà pourquoi.
Et comment vous imaginez cet avenir?
Nous imaginons cet avenir tout simplement en dotant par exemple notre pays, la République démocratique du Congo, d'une ambition au niveau régional. Et cette ambition se traduirait premièrement, par une action forte. C'est bien pour ça que je parlais de la nécessité qu'il aurait fallu au président de la République d'utiliser son mandat pour reprendre le secrétaire général de la CEAC. Il n'est pas intellectuellement admissible de vouloir faire croire que la CEAC ou l'intégration régionale est dans cet état comaté du fait de l'insuccès du mandat de Joseph Kabila. C'est complètement faux, ce n'était pas mon propos. Je ne suis pas ici pour faire un parallèle entre la déliquescence de l'institution CEAC et le mandat de Joseph Kabila. Je dis simplement qu'en réalité, dans les pouvoirs réduits qui étaient les siens pendant sa présidence, nous aurions, nous Congolais, aimé qu'il y ait un véritable travail pour reprendre ce leadership, étant entendu que nous avons plus intérêt à avoir une position dominante au niveau de la CEAC, ce qui est un objectif atteignable, que d'avoir un combat au niveau de la SADC, qui est une institution composée de pays qui ont une puissance économique, une puissance démocratique, sinon plus importante, du moins autant que la nôtre.
Alors pouvez-vous conclure par rapport au défi? C'est ça aussi votre conclusion?
Ma conclusion, elle est toute simple. Je crois que le président de la République a ouvert une brèche, ce qui est assez positif. Nous ne pouvons pas nous permettre des économies d'initiative. Maintenant, il faut mettre l'expertise au service des ambitions. Considérer qu'il y a des possibilités à tirer des intégrations, mais pour cela, il faut de l'expertise. Et j'ai l'impression qu'il y a un déficit d'expertise. C'est une position personnelle.
Professeur Moïla Tshiembé, votre conclusion aussi en ramassant les défis également, en 30 secondes.
Oui, pense qu'il y a un problème essentiel de l'ambition. Le Congo doit reprendre la main, étoffer son ambition, son projet d'intégration régionale, sans donner de moyens, l'expertise dont on parle. Le Congo doit se donner le moyen de cette expertise, ou entre les Congolais ou en dehors des Congolais, pour pouvoir clarifier qu'est-ce que l'on veut faire de l'intégration régionale. Tant qu'on n'a pas la réponse à cette question-là, on voit le Congo avec l'Afrique centrale, le Congo avec l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Le Congo ne peut pas être partout s'il ne fait pas des choix.
Merci, professeur. Monsieur le secrétaire général, un mot en guise de conclusion.
Mon dernier mot, c'est le fait que j'ai dit à mon ami Germain que le Congo a un secrétaire général adjoint en la personne du professeur Tiker Tiker.
Merci. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à Germain Kambinga. Merci à vous, professeur Moïla Kiembe. Merci à Nkoy Baoumbou, secrétaire général à la coopération régionale. À demain pour un nouveau numéro de Dialogue entre Congolais. Au revoir.